Et allez, on remet le couvert. Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le mercredi 17 janvier, il est 8h30. Quand ça veut pas, ça veut pas. J'attends des nouvelles de notre invité, normalement, qui devrait peut-être arriver. Et en deuxième partie d'émission, nous devions parler de l'UDAF, l'Union Départementale des Affaires Familiales. Mais malheureusement, un événement très triste empêche mes invités d'être là. Je les salue très amicalement. Comme mon invité n'arrive pas à cette première partie, je vous proposerai d'écouter Alexis qui tient l'épicerie bio d'Hispaniac, l'écureuil. La musique aujourd'hui, ce sera un hommage ce matin qui fait référence à la triste nouvelle dont je vous parlais il y a un instant. On écoutera donc Gérard Falipou et c'est parti pour l'édito dans la joie et la bonne humeur.
On peut être en désaccord, mais enfin vu le ramassis de saloperie que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Ah, si tous les millionnaires étaient comme elle. Elle s'appelle Marlène Engelhorn, une autrichienne de 31 ans, résidant à Vienne, riche héritière de la modique somme de 25 millions d'euros. Sauf que voilà, Marlène milite depuis des années pour la taxation des plus riches et a qualifié les modalités de taxation des plus riches dans son pays, je la cite, d'échec de la politique, et si la politique échoue, alors les citoyens doivent y faire face eux-mêmes. L'Autriche a voté l'abolition des droits de succession en 2008 et depuis la question continue de diviser. Ainsi, cette riche héritière altruiste a joint le geste à la parole et a pris une décision qui doit faire hérisser les cheveux des autres millionnaires et milliardaires. Non, je déconne, ils s'en foutent. Alors, qu'a fait Engelhorn ? Eh bien, elle a décidé de tout donner, mais pas n'importe comment et à n'importe qui. Le projet d'Engelhorn a débuté mercredi dernier avec l'envoi au hasard de 10 000 invitations à des citoyens du pays. La descendante du fondateur du géant de la chimie BASF a fait savoir qu'elle voulait impliquer les citoyens dans la manière dont sa fortune sera utilisée. 50 personnes finalement sélectionnées seront chargées de trouver comment utiliser au mieux l'héritage dans une optique d'intérêt commun. Christophe Hofinger, directeur général du Foresight Institute, partenaire de sa démarche, a précisé que ses citoyens participeront à des réunions à Salzbourg avec des spécialistes pour discuter du sujet. Ils seront dédommagés du déplacement à hauteur de 1200 euros par week-end. In fine, les projets retenus seront financés par Marlène Engelhorn. Ce serait tellement bien si tous les riches avaient cette bonne idée. Mouais, l'espoir fait vivre. Allez, toujours pas de nouvelles de mon invité. Ça arrive, il y a des semaines comme ça d'ailleurs, parce que c'est une semaine assez bizarre. Je vous propose donc de partir à la rencontre d'Alexis qui tient l'épicerie L'Écureuil à Hispaniac. C'est parti. Bonjour Alexis.
Bonjour.
On est à l'épicerie L'Écureuil à Hispaniac. Est-ce que tu peux nous dire comment et quand elle a commencé cette aventure ?
Alors nous, on a commencé en 2021, février. et une première année avec la mise en place de l'exploitation agricole et un petit démarrage sur la boutique quoi. Et on avait trois producteurs au départ qui étaient vraiment d'Espagnac. On avait l'apiculteur, une transformatrice sur le chocolat et un ami qui fait des confitures sur le Mont-Lozère. Voilà, donc à 4 on a commencé l'aventure et puis petit à petit de bouche en oreille ça a fait son tour et maintenant on est plus de 15 dans la boutique.
15 producteurs qui vont à peu près d'où à où?
Alors on monte jusqu'à Entrenas, on part jusqu'à presque Langogne et puis on descend dans les vallées Cévennes. Et puis maintenant on a aussi deux vignerons qui sont Frontière Gare et Terrasse du Larzac.
Un vin plutôt engagé, c'est ça?
C'est ça.
Est-ce que ça a été facile de s'installer?
Non, c'est jamais facile. On fait son nid petit à petit. Hein. Et puis, il y a les aléas, il y a le climat, il y a plein de choses. Le Covid en plus qui avait suivi. On en a pâti, mais bon, on est toujours là.
Vous avez, on va parler d'Esprit Parc après. Est-ce que vous avez été aidé par communauté de communes ou autre? Est-ce que vous avez eu des facilités entre guillemets pour vous installer?
On a eu un peu de réseau. On a eu le local, on l'a trouvé plus ou moins comme ça. Après, ça reste toujours du privé. On n'a jamais eu la possibilité de s'installer sur du domaine public, quoi.
Esprit Parc. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment vous avez obtenu le label?
Alors, Esprit Parc, c'est une marque nationale déjà, sur la France et les territoires d'outre-mer, qui concerne tous les parcs nationaux. Donc c'est exclusif à ces territoires-là. Et c'est une marque donc commerciale en soi, mais qui est sur un cahier des charges un peu spécifique, qui va être grosso modo entre de l'agriculture biologique et... du Nature et Progrès, d'Emeter, voilà, sur les questions de préservation des espèces, préservation des sols, maintien de la faune, de la flore, tout ça. Donc c'est des choses très intéressantes pour revaloriser un petit peu le patrimoine aussi bâti et non bâti. Et puis après, en dehors de ces critères très terre-à-terre, il y a le côté aussi, moral de donner une certification supplémentaire à des produits. Nous, on a quand même le label bio dessus, parce que c'est celui le plus connu quand même nationalement. Mais c'est vrai que Esprit Parc commence à avancer dans ce sens aussi, quoi.
Ça offre une visibilité, c'est ça, concrètement?
Ça, il y a la communication faite par le parc, qui ont un partenariat aussi avec les offices de tourisme. Donc on a une visibilité par Internet et puis les différents offices de tourisme et le parc national, ça c'est clair. Et après, il y a quelques personnes qui connaissent effectivement cette marque et qui savent un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière.
15 producteurs pour l'instant, est-ce que l'objectif pour 2023, fin 2023, 2024, c'est d'augmenter encore? Parce que pour les auditeurs et auditrices, il faut se faire l'idée du bio qui est quand même assez petit, assez cosy. C'est quoi les objectifs pour les mois, voire les années à venir?
Ben là, c'est sûr que les 30 mètres carrés sont déjà bien remplis. Donc on aurait encore un petit peu de place. On a quelques producteurs qui souhaiteraient encore rentrer, mais c'est vrai qu'on... Ça dépend des gammes en fait, il y a des producteurs qui ont qu'un, deux, trois produits, il y en a qui en ont des dizaines. Donc après on agence toujours comme il faut et puis on voit aussi ce qui marche moins. Et l'idée étant que les producteurs choisissent eux-mêmes qu'est-ce qui est en boutique. On n'est pas un commerce alimentaire traditionnel, quoi. On est sur vraiment du dépôt-vente avec un système au cas par cas pour satisfaire tous les besoins et les envies de chacun. Ouais.
Au niveau de la politique de prix, évidemment, avec les petites épiceries comme ça, on a toujours l'idée de prix qui sont démesurés, parfois trop chers, etc. Comment vous fonctionnez ici par rapport à l'épicerie?
Nous, on a appliqué une politique tarifaire qui favorise justement en fait l'achat quotidien, l'achat hebdomadaire, sachant que les producteurs, le but c'est qu'ils soient rémunérés le plus possible, l'idée n'étant pas du tout de faire du bénéfice sur leur dos. Donc ça c'est une volonté que j'ai depuis le début et qu'on poursuit et qui étonne plus d'un producteur parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de cette mentalité-là. Mais la boutique, à la base, nous, on était dans la volonté, même par rapport à nos produits à nous, d'être accessible à tout le monde, à tous les moyens, et de proposer autant de choses que possible en ce sens, quoi.
Est-ce que le public adhère de plus en plus à ce genre de démarche? Est-ce que tu as senti, toi, une évolution en 2, 3, oula, ça fait même quasi 4 ans d'installation, je vais y arriver.
Ouais.
Est-ce que tu as senti une évolution, une adhésion du public qui est de plus en plus intéressante?
Mais ce qui est super intéressant, c'est que sur Hispania, qu'on a à la fois les locaux, et on a quand même une grosse saison touristique qui s'étend des fois sur plus que juste l'été, puisqu'on a pas mal de randonneurs aussi, etc. Et c'est vrai que de manière générale, les gens sont déjà tous sensibilisés à l'agriculture biologique ou en tout cas à des méthodes un peu moins conventionnelles et pesticidées. Donc ça, c'est clair que c'est super d'aller en ce sens et de voir les gens prendre le temps aussi de discuter de ces choses-là. Et oui, il y a eu, avec le Covid, il y a eu plein de choses qui se sont passées autour aussi de l'alimentaire, de l'alimentation et du bien-être en fait des gens. Et c'est clair qu'il y a eu une prise de conscience énorme et qu'on voit de plus en plus de monde se tourner vers ce genre de moyens de consommation. Ouais.
Et ça dénote aussi avec certains commerces qui n'ouvrent que pour la saison touristique, c'est-à-dire que vous ouvrez à l'année?
Oui, on est ouvert à l'année, on est ouvert 3 jours semaine, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, plus le jour de marché qui est annuel à Hispania, le samedi matin. Et ça, c'est une volonté parce qu'on n'est pas là effectivement pour profiter juste de la saison et de mettre justement des prix un peu trop forts. Nous, ça nous permet aussi d'avoir sur l'année une clientèle et de fidéliser les gens. Et c'est super apprécié parce que même des gens qui ne sont pas à 100% sur Hispaniac mais qui ont des maisons secondaires, tous les ans ils retrouvent la petite boutique en place, même en février, même en novembre, quand ils ont envie de prendre leurs vacances pour une semaine. Quoi.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
De continuer. De continuer. Après c'est en bonne voie. On a les travers de l'agricole là actuel avec le climat, quoi, mais on fait tout pour maintenir la boutique malgré tout, de tenir ces jours d'ouverture fixés à horaire fixe, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on a toujours une petite panne de tracteur ou un arrosage qui est défectueux. Mais on va en ce sens-là, ouais.
Bah, bonne continuation à vous en tout cas.
Merci.
L'écureuil, c'est sur la petite place d'Hispaniac, c'est tout mignon. Je vous conseille, auditeurs, auditrices. À bientôt avec vous.
À bientôt.
Vous êtes bien sur Bartas, vous êtes bien sur le 107. Le temps de laisser à mon cher invité de s'installer dans ce studio. On fait une petite pause musicale, un petit hommage, je l'ai découvert hier. Un petit hommage, on écoute Gérard Falipou, le morceau s'appelle Ardèche, Ardèche.
Ardèche, Ardèche, on te soupçonne d'avoir voulu aussitôt nu être la maîtresse du Rhône, au voir la Méditerranée. Mais quand nos enfants te contemplent, comprends qu'il nous vient à l'esprit qu'en leur ayant servi d'exemple, c'est un peu toi qui les a pris. Ruisseler l'été, torrent en novembre, voyez-la descendre dessous la futaie, fuyant l'assemblée de sages rocailles. Il faut qu'elle s'en aille courir la vallée. Adieu vieux faillard, quittons-nous le chêne, je pars pour la plaine, fini les brouillards. Bonjour cerisier, pêcheur à la ligne, je vais voir les vignes et les oliviers. Ardèche, Ardèche, on te soupçonne d'avoir voulu aussitôt né être la maîtresse du Rhône, au voir la Méditerranée. Mais quand nos enfants te contemplent, comprends qu'il nous vient à l'esprit qu'en leur ayant servi d'exemple, c'est un peu toi qui les a pris. Car tout comme toi, nos jeunes d'Ardèche ont posé leur bêche, ont quitté leur toit pour aller plus bas, vers le plus facile, connaître à la ville des hauts et des bas, il reste les vieux qui sur leur visage portent le message d'un riche milieu. Des vieux qui ont su, sans un dictionnaire, découvrir la terre sans être déçus. Ardèche, Ardèche, on te soupçonne.
Gérard Falipou, jolie découverte. Voilà, j'étais pas inquiet, je savais qu'il allait arriver à un moment donné ou un autre. Philippe, bonjour.
Bonjour.
Philippe Cogolien de l'association Ennemi BD, je l'ai là entre les mains. Il est sorti à la fin de l'année sur les traces d'Ennemi, balades et légendes. Là, je l'ai là, c'est un bel objet. Je suppose que la question, la réponse va être simple. Vous en êtes fiers?
On en est content. On est toujours content de toute façon quand on est à Ennemi BD, parce qu'on fait des choses sympas, on rencontre des gens adorables, et à la sortie, des fois, on laisse une trace comme Ennemi. Donc voilà, un bel outil, un bel objet.
Comment et quand elle a démarré cette aventure?
C'est là aussi une belle histoire. En fait, c'est un été sur une terrasse là au-dessus du Tarn. Un gars qui arrive de je ne sais où, d'Île-de-France, et qui m'interpelle en me disant « Il paraît que vous travaillez sur l'illustration dans votre association, j'ai peut-être une idée, un projet à partager avec vous. » En fait, il était étudiant à l'école des Chartes à Paris, et il avait pris pour sujet d'étude le manuscrit sur la vie d'Ennemi, le manuscrit médiéval. Et donc, en recherchant ce manuscrit à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, au pavillon de l'Arsenal, il s'est rendu compte que le manuscrit n'était pas illustré. Il est en un seul exemplaire, il est conservé dans un état parfait, mais il n'est pas illustré. L'évêque devait manquer d'argent à la fin du projet. Et donc, tout est prévu. Il y avait les cases pour les enluminures, les cases pour les lettrines, les cases pour les bandeaux, mais pas d'illustration. Donc, dans l'instant, mes yeux se sont mis à briller, et on s'est dit, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas, 3 ans après, on en est là.
Alors, il est divisé en 2 parties, hein, une partie balade et la deuxième partie légende, mais il y a quand même une corrélation, évidemment, entre les deux.
Bien sûr, on a longuement hésité, parce que dans la présentation classique d'une bande dessinée, qui est un peu notre monde, on a d'abord la BD, et puis après on a le petit cahier complémentaire, le cahier graphique, le cahier documentaire. Et là, on s'est dit, mais en fait, partons d'aujourd'hui, partons de ce qui fait la réalité des gens. Ils viennent dans ce territoire, ils découvrent des lieux, ils ont envie de comprendre comment ces lieux sont encore aussi magiques que ceux qui les découvrent. Et donc, on est parti de cette proposition de balade, mais pas n'importe lesquelles. Celles qui concernent des lieux qui sont cités dans la légende et qui, en plus, par leur toponymie, sont expliqués par la légende. C'est ça qui est assez magique. Et donc, il y a comme ça une petite dizaine de lieux qui sont offerts aux gens et pour lesquels on fait une petite citation modeste de ce qui est dit dans la légende à ce sujet et qui les envoie, donc, après, quand ils reviennent, se poser dans un fauteuil ou sur une terrasse, avoir envie de feuilleter la deuxième partie de l'ouvrage.
Alors, gageons qu'il y a encore des auditeurs et des auditrices qui ne connaîtraient pas la légende de Saint-Ennemi. En quelques mots, est-ce que tu peux nous faire, je sais que tu aimes ça, un petit résumé de sa vie de Santa Enimia?
Alors, par principe, tout le monde la connaît ou presque, et personne ne la connaît.
Ouais, c'est pas faux. Ouais.
Parce qu'en fait, là, dans le livret qui fait 70 pages, il y en a 42 qui sont consacrés à la légende. Et sur ces 42, on peut dire que allez, les plus fins connaisseurs sont allés jusqu'à la 20e page. Mais la deuxième partie, personne ne la connaissait.
Avec le diable, tout ça?
Voilà. Et plus. Et plus, beaucoup plus. Parce qu'en fait, après, on a une logique qui nous permet de pénétrer l'histoire du territoire, sa relation à la royauté, et le fait que la royauté ait voulu à un moment mettre la main sur ce territoire du Gévaudan, de façon symbolique, bien sûr, à travers la récupération notamment du sarcophage, du cercueil d'Ennemi, ce qui n'a pas pu se faire, et qui a permis donc à ce territoire d'avoir une identité, d'être un Gévaudan qui devient indépendant, qui finalement, pour lequel la religion prend le pas sur la royauté, et qui tracera de façon indélébile dans le territoire des marques qui aujourd'hui sont encore visibles. Cette partie-là, elle était profondément inconnue et c'était aussi un peu le but de notre travail, de dire tout a le mérite d'être montré et donc tout a le mérite d'être dit.
Et alors, la vie d'Ennemi est absolument incroyable. Hein,
On est sur une vie de sainte, puisque c'est ainsi que c'est caractérisé par les historiens. Une vie de sainte, à l'époque, c'est d'abord du marketing. faut pas se faire d'illusions. Pour faire simple, l'évêque du territoire, qui à ce moment-là était installé à Javol, l'évêque Hilaire, se dit « mon copain de conque, là-bas, à côté, en Aveyron, il a trouvé le filon, il a créé une situation, là, une histoire, qui permet de raconter qu'il y a quelqu'un qui fait des miracles, les gens viennent, ça fait des pèlerins, et ça développe le territoire. Chez nous, le Gévaudan, c'est pas terrible, donc on va faire ce qu'il faut. » Et donc, on passe commande, c'est tout à fait cette démarche-là. On passe commande à un écrivain dont on pense qu'il était le troubadour Bertrand de Marseille. On lui dit, allez, 2000 vers, hein, 2000 pour faire bon prix, et puis pas plus. Et il faut que ça ronfle, hein. Il faut que ça ronfle, il faut que quelque part on voit qu'il y a des miracles, il faut que ça vaut le coup de venir là, et c'est parti. Et c'est parti de là. Et on peut dire que ce territoire qui aujourd'hui est hyper touristique, pour lequel le tourisme n'a pas toujours eu que des effets positifs, notamment dans ces dernières décennies, en fait, il est parti de ce tourisme cultuel, c'est-à-dire de cette capacité que l'Église a eue à un moment à faire croire aux gens, parce que c'est un peu dans ces termes-là qu'il faut se le dire, que venir dans ce territoire, c'était venir découvrir une autre vie, venir se guérir et venir peut-être s'y installer. Quoi. Ouais.
Vous tenez à appeler l'ouvrage un livret d'art et non un livre d'art ou une bande dessinée. C'est un livret d'art.
Tout à fait. On est sur un concept un peu nouveau. Il existe dans le registre de la bande dessinée pour les auteurs ce qu'on appelle des artbooks, des livres d'art, qui résument leur œuvre et qui permettent aux amateurs de graphisme de se faire plaisir sur 200-300 pages. Mm-hmm. L'autrice de cet ouvrage dans le domaine de l'illustration, qui s'appelle Florence Magnier.
On allait en parler, voilà, mais vas-y, transition toute trouvée.
A justement un artbook chez les éditions Nestive Eknen à Aix-en-Provence, qui est un ouvrage magique. Et en travaillant avec Nestive Eknen, donc ces éditions, on s'est rendu compte que on était dans un livret d'art, c'est-à-dire qu'on n'a pas 200 pages, on ne couvre pas un seul auteur, puisque l'idée c'est plutôt de partir d'un document historique, mais on est dans une qualité à la fois graphique, de présentation, de manipulation d'un objet précieux qui nous permet de l'appeler un livret d'art.
Florence, hein, tu l'as abordé, c'est une histoire de rencontre. Son travail est absolument magnifique, hein, je tiens à le dire sans flagornerie. C'est une histoire de rencontre avec Florence, comment ça s'est passé?
Alors Florence, c'est par l'intermédiaire de Tatiana Domas que nous l'avons rencontrée.
Et d'ailleurs, c'est Tatiana qui s'est occupée des balades, hein, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Tatiana s'est occupée des balades. On a un peu réparti le travail. Elles n'ont pas tout à fait la même approche graphique. Et donc, Tatiana, en fait, qui était une habituée de nos actions, notamment de nos actions scolaires, avec sa petite sorcière Miralda, bien connue sur le département, quand on l'a abordée, nous a dit « Mais moi, je vois quelqu'un en France, il n'y en a pas 50 qui sont capables de faire ce que vous attendez. C'est peut-être Florence Magnien, parce qu'elle est dans le domaine de l'ésotérisme, du fantastique, de la fiction, voire de l'heroic fantasy, une des particularités les plus significatives de ce qu'on trouve en graphisme en France. Et donc on s'est rapproché d'elle par cet intermédiaire-là. Et le chemin, là aussi, a suivi son cours.
Et justement, alors il y a aussi, d'après, moi je viens d'avoir le bouquin, tu me l'as apporté ce matin, j'ai hâte, là, mes mains tremblent en voyant ce bel ouvrage, qui a aussi des témoignages scientifiques, c'est ça ?
Oui, alors nécessairement, quand on se permet d'affirmer, comme je le disais tout à l'heure, qu'on est dans le marketing, qu'on est dans le tourisme culturel, qu'on est dans l'influence de la religion, qu'on est dans la prise de pouvoir du religieux sur la royauté, on ne peut pas se permettre de le dire comme ça, de façon péremptoire, sans appuyer son propos sur de la connaissance et de la connaissance scientifique. Donc on s'est rapproché, ça fait maintenant 3 ans, de celui qui connaît probablement le mieux le sujet, qui est un médiéviste, qui s'appelle Fernand Peloux, qui travaille au CNRS, accroché à Toulouse, mais qui intervient souvent sur Paris en conférence, et qui est un passionné, en plus, de cette hagiographie, c'est-à-dire de ce texte de la vie de sainte de Saint-Élymi. Alors, c'est une histoire personnelle, là aussi, qu'on lui fait raconter, d'ailleurs, dans son interview, qui le rattache à un oncle qui habitait la Lozère et qui l'a fréquenté assez souvent quand il était gamin, et qui lui donne envie, le jour où il fait ses études, de venir travailler, non pas sur les documents historiques classiques, mais sur cette partie des vies de saintes qui, en fait, permettent de rentrer dans un territoire par un regard certes particulier, celui du cultuel, mais avec une précision redoutable. Et c'est ce qui fait que les balades, notamment, ont du sens, parce qu'elles renvoient à des descriptions très précises des lieux tels qu'ils étaient et tels qu'on peut les rencontrer encore.
L'idée aussi, c'était quelque part que ça rappelle des parchemins médiévaux, un peu des manuscrits médiévaux.
On est dans le manuscrit médiéval, hein, on est dans ce type de registre. D'ailleurs, à la Bibliothèque nationale de France, la catégorie de classement, c'est manuscrit, manuscrit médiéval. C'est pour ça qu'il est au pavillon de l'Arsenal. Il est dans un état de conservation, je le disais tout à l'heure, exceptionnel. Alors, c'est la chance à qui ? C'est la chance, à la Révolution française, tout simplement, parce que ce manuscrit a été édité en plusieurs exemplaires à l'époque, mais il était plus ou moins bien conservé, et notamment le dernier exemplaire, qui était plutôt en bon état, était à ce moment-là conservé par le curé de la paroisse. Sauf que Révolution oblige, tous les documents ont été récupérés et remontés sur Paris, et remonté donc dans le cadre du patrimoine national à la Bibliothèque nationale de France. Et c'est ainsi que celui-ci est aujourd'hui conservé et préservé.
Oui, je croyais que tu allais peut-être forcément...
J'allais prolonger en disant, on est dans le manuscrit, en l'occurrence celui-ci est du XIVe siècle, donc il a quand même un certain temps, mais ce qui est assez cocasse aussi à constater quand on travaille sur le sujet, et Fernand Pelou nous y a donc beaucoup aidé en tant qu'historien, c'est de voir que ce manuscrit du XIVe en fait reprend une histoire du XIIe siècle qui reprend lui-même une histoire du IXe. Sauf que la différence est au niveau linguistique. Et là, on rentre dans le deuxième intérêt du travail sur ce document. C'est pour ça que la Direction régionale des affaires culturelles nous a beaucoup soutenus dans ce domaine. C'est qu'en fait, le manuscrit initial était en latin. Le manuscrit, le second, était également en latin au XIIe siècle. Il était parfaitement illustré. C'est un très bel ouvrage. Les illustrations sont très belles, mais peu quantitatives et pas régulières dans l'ouvrage. C'est assez curieux. Il est consultable aussi, mais au pavillon Richelieu à Paris, à la BNF. Et celui-ci, par contre, il est dans une autre langue qui s'appelle la langue romane médiévale.
Magnifique. Et d'ailleurs, en parlant de langue, il y a un projet là pour début février, si je ne m'abuse.
Effectivement, on a donc d'abord commencé par une version en français, parce qu'elle faisait défaut. Depuis 1926, le dernier travail de Clovis Brunel, un archiviste départemental qui est devenu ensuite directeur de l'École des Chartes à Paris, rien n'avait été publié sur le sujet. Donc là, on remet une version intégrale, en français, en prose, pour qu'elle soit accessible au grand public. Mais sous le coude, on a attaqué, bien sûr, le travail sur ce qui est la langue d'origine de ce manuscrit et qui fait sa valeur en tant qu'hagiographie, c'est-à-dire la langue romane médiévale qu'on appelle aujourd'hui l'occitan. Et donc, l'université, là, c'est plus Fernand Pelou, c'est un linguiste, c'est Patrick Sauzet, et son collègue Gérard Gourian, de l'université de Montpellier, nous ont aidés en faisant une traduction en occitan moderne de ce texte médiéval. Et c'est cette traduction en occitan moderne qui va nous servir pour la version sur laquelle on a commencé à réfléchir et pour laquelle on travaille avec le CIRDOC de Béziers à partir du mois de février.
L'objet est absolument magnifique, on l'a dit, hein, et tu l'as abordé, la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, vous a beaucoup soutenu, ce qui fait que finalement le prix est assez abordable, 19,50 €.
Voilà, ça c'était notre culture de la BD, on a dit on ne va pas sortir au-dessus de 20 €, parce qu'au-dessus de 20 €, c'est plus le même budget, on n'est pas dans la même approche pour les gens qui veulent l'acquérir, donc on a fait l'effort de rester en dessous de 20 €, et c'est effectivement ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ouvrage est particulièrement bien accueilli par le public. On a créé un certain nombre de points de vente sur le département, des points de vente en ligne aussi, puisqu'on a une boutique en ligne. Et on se rend compte que les gens apprécient le fait qu'un bel objet comme celui-ci soit accessible à ce prix-là.
Enimi-bd.sumupstore.com si vous voulez vous le procurer. Mais parlons des endroits physiques. Un peu, où est-ce qu'on peut se le procurer ? Tu parlais de différents points de vente dans le département.
Alors, on a créé deux réseaux en fait. Un premier réseau au moment du lancement, parce que c'était la proximité de Noël, les cadeaux, etc. Et donc là, on est sur le réseau libraire. Donc on a travaillé avec 5 libraires sur le département qui ont bien voulu spontanément s'associer à nous, même si on était, comme toujours, un peu dans l'urgence pour arriver à le sortir dans les délais. Un peu comme ce matin pour venir en parler. Et donc ces 5 libraires sont répartis, Marvejol, Mende, Florac, personne pour le moment, mais la porte est ouverte. Et donc ces 5 libraires servent de réseau local pour pouvoir avoir l'accès direct au manuscrit, j'allais dire, au livret d'art, et donc pouvoir d'abord le prendre en main, parce que c'est un livre, et ça c'est important pour nous.
Tu parlais justement qu'il est sorti un peu comme ça en urgence, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile quand on sort un ouvrage pareil ?
Ce sont les choix éditoriaux, c'est ça le plus compliqué, c'est-à-dire qu'on avait la matière, en 3 parties, comme on l'a dit, c'est-à-dire la légende d'une part, et ses illustrations. Florence avait terminé son travail avant l'été. On avait les témoignages des scientifiques, Fernand Pelou d'un côté, Patrick Sauzet de l'autre, et puis on avait les balades. Donc ça, globalement, notre connaissance du territoire nous permettait d'avoir la matière. Mais par contre, la difficulté, ça a été les choix éditoriaux, de se dire qu'est-ce qu'on met d'abord, qu'est-ce qu'on met après, comment on le rédige, dans quel type de discours on s'installe, pour qu'il soit à la fois accessible à tous, qu'il soit attrayant, et qu'il reste pour autant de qualité scientifique. Ça, c'est un vrai pari d'écriture, et c'est ce pari-là qui est coûteux. Parce que, comme toute écriture, il faut se mettre face à sa page, et puis surtout, il faut avoir une grande cohérence du début à la fin.
L'édition, l'impression, comment ça s'est passé ?
Très bien. On est en Lozère, et ça se passe tout seul. Nombre de gens nous avaient dit vous aurez de la difficulté à avoir de la qualité, vous ne serez pas dans les délais, ce sera trop cher. Enfin bon, on avait tout entendu. On a fait le choix, nous, de travailler avec l'imprimerie des 4 à Marvejols. Ouais. Ils sont très professionnels. Leur maquettiste a été adorable. On a pu travailler en binôme de façon très efficace. Et en termes de délai, exceptionnel. On a sorti les éléments de maquette finalisés fin novembre. Le 19 décembre, le livre était dans les librairies. Donc bravo, bravo, parce que c'est une petite équipe, mais qui y croit, qui aime son boulot et qui le fait très bien. Donc attention d'aller chercher très loin ce qu'on a très près.
Ouais, c'est vrai qu'il faut le préciser, hein. ID4 à Marvejols, ça fait du bien d'avoir un travail pareil, c'est sûr, juste à proximité. Évidemment, cette année, pour conclure, il y aura les événements habituels et non moins incontournables de la BD à Saint-Émilie, rassure-nous.
Oui, bien sûr, on est de toute façon tous les matins au boulot, nous, puisqu'on fait de l'éducation artistique et culturelle tout au long de l'année. Donc encore lundi, on était au lycée Peytavin. Hier, j'étais à Nîmes pour travailler avec une maison d'enfants à caractère sanitaire social. Donc on avance tous les matins sur l'éducation artistique et culturelle. Parallèlement, on construit nos 3 grands rendez-vous de l'année, hein, les 48 heures de la BD qui auront lieu sur le premier week-end d'avril, le festival qui est déjà fixé bien sûr au 29 et 30 juin, le dernier week-end qui fait la césure entre le printemps et l'été. Et puis, ce rendez-vous autour d'Enimi, qu'on est en train de retravailler, puisque ça va être la date qu'on s'est fixée pour sortir la version en occitan. Et donc, ces rencontres-là vont être à coloration occitane, forte, voilà, avec une dimension plus festive, spectacle, animation, ateliers participatifs, familiaux, etc., pour donner à ces rencontres d'automne une coloration un peu plus ouverte, un peu moins intello qu'ont pu être les 2 premières. Et on a notamment un travail interassociatif qu'on ouvre début février au niveau du territoire à ce sujet.
Ça va faire plaisir à David et Véro qui animent l'Oresson del Pesquier sur cette antenne, notre émission en occitan. Enimi BD, début juillet ?
Début juillet, le 29 et 30 juin.
Juin, ah, même juin. Fin juin.
Et oui, parce que le calendrier est ainsi fait que les week-ends ne sont pas toujours placés comme on le souhaiterait.
C'est vrai.
Donc, sinon, c'était le 6 et 7 juillet. Et le 6 et 7 juillet, c'est nos camarades du 48e de rue qui sont sur le terrain. Donc, il est de bon ton de faire en sorte que chacun puisse avoir aussi ses dates, sa régularité, son rituel.
Et donc, nous, ça nous arrange, comme ça, on peut couvrir les deux. Et
voilà,
l'UBD et 48e de rue. Merci beaucoup, Philippe.
Merci, à bientôt.
Pour l'association Enimi BD, sur les traces d'Enimi, balades légendes, c'est disponible dès à présent. Auditeurs, auditrices, allez voir la librairie de Florac, c'est trop jamais. En tout cas, c'est disponible aussi sur le site enimi-bd.sumupstore.com. Je mets évidemment tous les liens sur notre site dans un instant. Voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. On se quitte avec Gérard Philippou. Le mois de septembre, et j'adresse mes plus sincères amitiés à François pour sa maman et à Stéphane pour son papa en ces temps sombres. Je vous embrasse de tout mon cœur. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. À très bientôt, ciao.
Voici les raisons, tout au moins pour moi, qui font que septembre est le plus merveilleux des mois. Vacances finies, l'automne déjà, en catimini, fait ses premiers pas d'un jus de raisin. La verte fougère s'offre un fond de teint, coloris bruyère, première rosée, dernier papillon, première cuvée, premier champignon. Voici les raisons, tout au moins pour moi, qui font que septembre est le plus merveilleux des mois. Si l'un de ces prochains jours il pleut et que le vent du nord souffle un peu,
au marron grillé brûlant nos doigts autour d'un feu de bois. Si mon feu te confie ses secrets, tu comprendras pourquoi la télé n'a jamais pu remplacer chez moi l'attrait d'un feu de bois. Voici les raisons, tout au moins pour moi, qui font que septembre est le plus merveilleux du mois. En mini-journée, septembre revient comme chaque année, affoler mes chiens, graisser mon fusil, sertir mes cartouches et fleurir d'un buis le coin de ma bouche, lancer de levrault, lâcher de faisan, doubler de perdreau, retour triomphant. Voici les raisons, tout au moins pour moi, qui font que septembre est le plus merveilleux des mois. Un vieux chasseur dans ma cheminée raconte ses exploits du passé, mimant tant au gibier, tant au chien, Marceau ferait moins bien. Mais en parlant de poudre et de plan, il confond Diane et la Madelon. Et nous revoilà plongés tout vite entre 14 et 18. Voici les raisons, tout au moins pour moi, qui font que septembre est le plus merveilleux des mois. Voici les raisons, tout au moins pour moi, qui font que septembre est le plus merveilleux des mois.